Le chemin de traverse de la recherche. Une série d'émissions proposées par l'UMR Titéar, Université Grenoble-Alpes.
Voilà, donc bonjour à tous. Je suis avec Michael Langlois.
Bonjour.
Michael Langlois, bonjour Michael. Comment tu vas?
Mais ça va très bien.
Ça va très bien. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand
Avec
honneur.
plaisir, bah, c'est gentil de m'inviter.
Alors voilà, Michael, la première fois que je t'ai vu, c'était dans mes. Je me posais beaucoup de questions par rapport à mes recherches et j'ai vu. Tiens, Trait d'Union organise une conférence sur le silence. Alors j'ai postulé, figure-toi. Et c'est toi qui as été recruté.
Mais
Alors j'ai avec plaisir assisté à cette conférence et on a pu avoir un échange magnifique par la suite sur tout cela. Et en tant que, voilà, en tant que chercheur, en tant qu'apprenti-chercheur qui travaille sur la question du silence, j'avais vraiment envie que tu nous amènes quelques pépites hein, par rapport à tes spécificités. Mais d'abord, voilà, je vais peut-être te demander de te présenter ton parcours de doctorant. Moi, est-ce que tu veux que je me présente d'abord moi et ensuite tu le fais comme tu veux?
mais vas-y, présente-toi d'abord et puis après je le ferai volontiers, oui, bien sûr.
D'accord. Alors moi, je suis donc je fais un doctorat donc avec l'Italie, donc Bologne, avec une professeure qui est dans la chaire d'histoire des religions et qui est anthropologue, qui a notamment fait ses recherches en étant carmélite, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un carmel pour faire une étude ethnologique sur le silence, notamment. Et ensuite avec Grenoble, avec le laboratoire Litésar, qui nous accueille pour ce podcast radio. À qui je remercie cet accueil. Et voilà, pareil, c'est-à-dire mon objectif, disons, scientifique, c'est voilà, d'essayer de tirer de la connaissance sur les expériences du silence, expérience entendue comme un élément ou une modalité dans la relation au monde. Voilà.
Ah
Voilà
oui,
pour me
très
présenter.
intéressant.
Merci. Alors, je ne sais pas si tu connais Hermod Rosa.
Pas personnellement, non.
D'accord. Alors, notamment, il a travaillé un concept qui s'appelle le concept de résonance. Hein. C'est le concept, c'est-à-dire qui parle de du rapport dialogique, tu vois, que le sujet avec le monde, tu vois, sur différents axes. Et voilà, donc moi, voilà, j'essaie de comprendre cette expérience du silence, voilà, en montagne et notamment sur un monastère.
C'est super, ouais, très intéressant, j'ai hâte de lire tes travaux.
Ah ben, merci beaucoup. Et toi, alors, je sais que si on parle de monastère, si on parle de silence, si on parle de théologie, enfin, je sais qu'on commence à toucher un petit peu tes axes de recherche et ton parcours, mais je pense qu'il n'est pas du tout réductible à cela. Donc j'aimerais, si tu veux, que tu nous présentes ton parcours qui est riche.
Oui, moi j'ai fait ma thèse à Paris, à la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études en sciences historiques et philologiques. Je m'intéresse notamment, on va dire, au Proche-Orient ancien, de manière générale, le Moyen-Orient dans l'Antiquité. J'ai travaillé sur des textes araméens pour ma thèse. Le livre d'Hénoc, qui est un document du judaïsme antique, qui a été donc un livre écrit en araméen, qui n'est pas dans la Bible, pas dans les nôtres en tout cas, mais qui est dans la Bible en Éthiopie. Donc nous, on appelle ça un apocryphe, c'est-à-dire un livre qui aurait pu être dans la Bible, mais qui n'y est pas. Bon, sauf qu'en Éthiopie, il n'est pas apocryphe du tout, puisqu'il est dans la Bible. Et donc voilà, donc il y a des manuscrits. Moi, j'ai travaillé sur le plus ancien manuscrit de ce livre, qui a été découvert au bord de la mer Morte, sur les rives occidentales de la mer Morte, un site qui s'appelle Qumran, un site archéologique. Et donc voilà, on a des manuscrits du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc moi, j'ai travaillé vraiment sur l'édition de ce texte. Alors de manière plus générale, je m'intéresse à l'histoire des civilisations antiques, notamment celles qui ont donné naissance à la Bible, le judaïsme antique, la naissance du christianisme et de l'islam. Je travaille sur des textes de différentes langues. Je ne fais pas que de l'histoire des religions, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'histoire des religions. Là, en ce moment, je travaille sur des documents administratifs, des documents fiscaux. Donc voilà, je m'intéresse aux civilisations de manière générale. Et c'est vrai que même quand on a de la correspondance militaire, là je suis en train d'éditer de la correspondance militaire qui date de 600 avant notre ère, bah, il y a quand même des formules de bénédiction, enfin, etc. Donc la religion est omniprésente. Je m'intéresse aussi à la Bible, j'ai fait des études de théologie avant de faire ce doctorat, et donc j'ai aussi un intérêt évidemment pour la Bible, le monde de la Bible. Et c'est vrai que quand tu parles de cette expérience de retraite spirituelle, de silence, de montagne, là je reviens hier, je suis rentré hier de Jordanie où j'ai visité des sites archéologiques qui sont pour certains très connus comme Petra, le Wadi Rum, etc. Bon, c'est des lieux désertiques et donc c'est le lieu idéal d'une certaine manière pour justement vivre cette expérience du silence qui t'intéresse pour tes travaux de recherche. Et d'ailleurs, qui sont repris dans la Bible, évidemment, avec des personnages qui vont faire ce type d'expérience. Donc moi, je suis très intéressé par tes recherches et je suis content qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui.
Ah, bah écoutez, c'est vraiment, bah pour le coup, pour moi, bah c'est très intéressant, effectivement, d'avoir ce ressort que tu nous apportes là. Et est-ce que, voilà, moi, la question que je me posais quand je t'entendais, c'est, on voit souvent là les pratiques religieuses à Jérusalem. Je sais que c'est un siège dans lequel ben, vous êtes bien assis, hein, Jérusalem. Il me semble que vous êtes aussi très actif, hein, au niveau de l'université française là-bas, c'est bien ça?
Alors moi, je suis invité régulièrement. On a des collaborations, évidemment. J'ai eu un projet, ce qu'on appelle un PHC, un partenariat ubercurien, entre l'Université de Strasbourg en France et l'Université Bar-Ilan en Israël. Donc ça nous a permis de faire des travaux de recherche, notamment sur d'autres inscriptions araméennes anciennes, qui sont des textes, en l'occurrence des textes divinatoires du 2e siècle avant notre ère, trouvés en Idumée, quelques dizaines de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Les Iduméens étaient les voisins des Judéens, donc c'est les voisins de la Judée, ils parlent aussi araméen. Donc voilà, donc oui, j'ai eu pas mal de partenariats. J'étais 2 ans en poste au CRFJ, le Centre de recherche français de Jérusalem. C'était juste avant le Covid. Donc voilà, et j'y retourne encore bientôt. Donc j'ai régulièrement des collaborations avec les universités israéliennes, effectivement.
D'accord. Parce que je vois que le silence, pour avoir parcouru aussi la Bible, hein, avec vraiment cette curiosité et puis quelque part cette recherche aussi, parce que c'est vraiment, il y a tout un mystère, enfin, qui est moins un mystère pour toi, mais en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens. Et notamment les proverbes, il y a énormément d'éléments sur le silence. Et qui sont de manière incontournable, où on voit vraiment que le silence a une forme de prégnance, mais que le silence fait partie un petit peu d'un message qui se dit peut-être dans l'écoute ou dans l'accueil. Et tu vois, une des premières constatations dans mes recherches, c'était de me dire, et je suis vraiment, Armand Trosa m'a vraiment aussi, et d'autres personnes, notamment David Le Breton, m'ont bien tracé le sillon. Mais de dire que vraiment on est dans une société où ces adages-là au silence sont vraiment, comment dire, ont une connotation presque douloureuse. Hein? C'est-à-dire le faire silence comme ça, quand il y a comme ça l'idée d'imposer quelque chose, mais de quelque chose un peu d'oppressant. Alors que c'est vrai que quand on parcourt la Bible, à beaucoup d'endroits, le silence, c'est vrai, peut être une interrogation, mais à beaucoup d'endroits, le silence, c'est comme une forme de présence. Notamment, je me rappelle un petit peu le Carmel, quand j'ai un petit peu cherché à savoir d'où venait cette appellation Carmel, d'où venait ce mouvement un petit peu, et du prophète Élie, dans lequel Dieu aurait rencontré dans un fin silence. Donc c'est vrai que ça vient, je trouve ça vraiment très intéressant parce que je trouve que ça vient déjà emboîter le pas à un paradoxe. Hein? On parlait tout à l'heure qu'effectivement, on est dans une société où il faut se faire entendre, hein, il faut avoir de l'écho, il faut avoir de la résonance, mais au sens d'être pas entendu, mais en tout cas écouté, pour le meilleur ou pour le pire. Et là, effectivement, On a dans cette approche-là de l'imaginaire monastique, quelque chose qui me passionne encore d'ailleurs, cette image monastique, comment dire, l'idée que le silence, que dans cette recherche du silence, il y a quelque chose de précieux. Hein, il y a une forme de mise à part, quelque chose de précieux. Et d'un autre côté, il y a l'idée que dans nos sociétés, voilà, cette recherche radicale-là de cette mise à part par ce média du silence, c'est quelque chose presque de déraisonnable, quelque chose de profondément presque le mot peut-être, alors c'est mal dit, mais presque agaçant. Qu'en penses-tu?
Oui, ben c'est vrai. D'ailleurs, dans notre culture, c'est vrai qu'on n'aime pas trop, on n'aime pas trop le silence. Et c'est vrai qu'on est souvent un peu embarrassé si d'un seul coup, ne serait-ce que quelques secondes de silence, on va se sentir obligé de rebondir, de dire quelque chose. Et ça, on l'a tous vécu à un moment donné dans une conversation à table avec des amis ou dans un salon, ou bref, où là, d'un seul coup, alors on dit un ange passe. Voilà, on a cette expression parce que justement, on trouve que le silence n'est pas humain finalement. Il se passe quelque chose d'inhabituel et de dérangeant. Alors que effectivement, comme tu le dis, ce qu'on observe, c'est que dans la Bible, au contraire, le silence est valorisé, on le recherche, on en a besoin. Et on sait même que c'est justement au travers du silence, bien souvent, qu'on va pouvoir tendre l'oreille et entendre Dieu, cette voix qui ne s'impose pas forcément à nous. Parce que voilà, Dieu n'est pas justement un être humain, donc c'est pas quelqu'un avec qui on peut dialoguer comme toi et moi on est en train de le faire maintenant. On a envie de dialoguer avec Dieu, mais ce dialogue ne peut pas se faire comme on le fait avec un être humain. Et donc pour pouvoir entendre cette voix qui n'est pas une voix humaine, qui ne s'entend pas comme les autres voix, il faut se mettre à l'écoute. Et donc, il faut effectivement faire silence et, si possible, faire soi-même silence, mais aussi le silence autour de soi, d'où l'idée, effectivement, de s'éloigner, de partir dans la nature. Tu parlais tout à l'heure du Mont Carmel, effectivement, qui est une montagne, une colline, en tout cas, qui domine la Méditerranée, là, au nord d'Israël. Et puis, il y a d'autres montagnes célèbres, le Mont Sinaï, l'Horeb, qui sont des lieux, voilà, où on va se mettre un petit peu à l'écart. S'éloigner un petit peu de la foule, s'éloigner un petit peu de la ville, et on se dit dans ce silence qui nous environne, on sera plus à même de tendre l'oreille et d'entendre cette petite voix ténue, qui est celle de Dieu.
Ah oui, alors effectivement, là, quand je t'écoutais, je pensais au désert, parce que tu me parlais que tu venais du désert, et c'est vrai qu'à la symbolique, hein, du silence par rapport au désert, et notamment, il me semble que dans la Bible, il y a vraiment le désert est quelque chose de particulier d'un point de vue du silence, mais aussi de cette expérience du silence dans lequel on parle, c'est-à-dire que a priori, le désert, c'est quelque chose qui est dénudé, c'est quelque chose qui est appauvri en soi. Enfin, je veux dire, le climat fait voilà, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas prendre vie. Et d'ailleurs, on a un petit peu l'image, hein, dans les Lucky Luke, là, de ces vaches, là, les squelettes dans le désert mexicain, etc. Et pour autant, effectivement, quand je me suis un petit peu épanché là-dessus, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait une symbolique du désert qui est proche de celle du silence, c'est-à-dire que des fois, la façon de mieux parler, c'est de se taire. Ou la manière de dire les choses la plus en profondeur, c'est de faire silence. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans la Bible, le désert, les Juifs qui ont traversé le désert, on sait qu'il y avait comme ça une espèce de quête, de chemin, enfin de quelque chose qui allait dans le sens d'une promesse d'enrichissement, hein, je ne parle pas forcément matériel, mais d'enrichissement d'un point de vue personnel, d'un point de vue de leur foi, d'un point de vue des promesses qu'ils avaient reçues. Et puis on voit aussi que Jésus, alors qu'il est... Il n'est pas forcément dans une phase où, enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on sait qu'il va dans le désert et qu'il y va abondamment, puisqu'il y va en 40 jours, et qu'il coupe ce silence par du jeûne, qui est aussi, le jeûne, on pourrait aussi le comprendre comme une autre forme de silence, parce qu'on met son corps en silence quelque part.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, tu fais bien de faire le parallèle entre le peuple hébreu, 40 ans dans le désert, et Jésus, 40 jours dans le désert. Le chiffre est le même, 40. C'est fait exprès. Hein. C'est-à-dire que dans l'évangile, notamment l'évangile selon Matthieu, il y a vraiment cette volonté de faire le parallèle entre l'histoire personnelle de Jésus et l'histoire du peuple d'Israël. Donc, il va revivre toutes les étapes, alors en accéléré évidemment, mais toutes les étapes de l'histoire du peuple. Donc, il va y avoir la traversée de la mer Rouge, d'un côté pour les Hébreux qui va être parallèle au baptême de Jésus, et puis immédiatement après, les Hébreux vont passer 40 jours, 40 ans dans le désert, Jésus va passer 40 jours, etc. Donc, il y a effectivement ce parallèle qui doit être fait, et comme tu dis, le désert, c'est aussi le lieu de la pauvreté, c'est-à-dire évidemment, il n'y a pas l'abondance, il n'y a pas beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup à boire, donc il y a une mise à l'épreuve. Jésus va être mis à l'épreuve pendant 40 jours et le peuple hébreu va être mis à l'épreuve pendant 40 ans. Et on le voit d'ailleurs à un moment donné, le peuple hébreu a faim, a soif, il dit bon, finalement, on aurait mieux fait de rester en Égypte, on était esclaves, mais au moins on avait à manger. Et donc l'idée, c'est la mise à l'épreuve, c'est-à-dire d'accepter d'abord, un, sa pauvreté, nos limites en tant qu'être humain. On touche à nos limites. Il fait très chaud, il fait soif, il fait faim, etc. Bon, donc on prend davantage conscience de nos limites en tant qu'être humain par opposition à Dieu, ou aux dieux, disons les dieux de manière générale, parce que l'expérience du désert n'est pas limitée au monde de la Bible, mais à d'autres religions aussi, y compris des religions polythéistes. Donc on va dire le monde du divin, de manière générale, par définition, est transcendant. C'est ça qui nous distingue des dieux, hein. Le monde du divin, c'est le monde du transcendant. Donc, Dieu est très très loin de nous, il est au-dessus de nous, il dépasse là où nous sommes limités, lui n'est pas limité. Donc nous sommes des êtres mortels, il est immortel. Nous, on peut avoir faim et soif, mais pas Dieu. Et donc le fait de se placer dans le désert, c'est une façon de nous confronter à nos limites humaines en tant qu'être humain, dire voilà qui nous sommes et nos limites, et donc de compter davantage sur Dieu, y compris sur une intervention miraculeuse de Dieu. Et Jésus, de la même manière, va avoir faim. Et c'est là, effectivement, que va se poser la question de savoir comment est-ce qu'il va subvenir à ce besoin. Et donc, le diable va lui dire, demande que ces pierres soient transformées en pain. Et Jésus va répondre en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il cite précisément un verset du livre du Deutéronome qui correspond au moment où le peuple hébreu est dans le désert et où il a faim. Donc, Jésus lui-même, par sa réponse, lorsqu'il est tenté par le diable, va faire ce parallèle entre sa situation à lui et la situation du peuple hébreu dans le désert. Donc, ce désert, c'est effectivement le lieu où, d'une certaine manière, on va prendre davantage conscience de notre petitesse, de notre limite en tant qu'être humain, et justement, peut-être de dire, voilà, on est davantage sujet aux conditions naturelles, à l'immensité aussi, évidemment, de la nature. Il y a, dans le désert, il peut y avoir du vent, il peut y avoir donc tous ces éléments naturels. Et on se sent bien faible et bien petit par opposition à Dieu qui, lui, domine toute chose et est capable de tout. Et donc, forcément, ça va nous mettre dans une condition plus propice à l'écoute de Dieu. Et le jeûne aussi, tu parlais du jeûne tout à l'heure, c'est la même dynamique, c'est le même élan. Quand quelqu'un va dire je vais jeûner, c'est pas juste pour faire un régime parce que je veux perdre des kilos, mais c'est effectivement parce que cette posture du jeûne va d'une certaine manière chasser un peu tout ce bruit environnement, tout ce train-train quotidien, cette routine qui peut comment dire, m'empêcher de réfléchir, de raisonner ou d'être à l'écoute, un peu le rythme métro-boulot-dodo. Et là, on va casser cette routine pour dire là, je vais être davantage à l'écoute, peut-être de cette voix divine qui ne s'impose pas à moi si je ne fais pas cet effort.
Oui, alors, tu vois, c'est très fort dans tout ce que tu as dit. Et effectivement, il y a vraiment cette idée que le silence, finalement, ce n'est pas une fin de non-recevoir, mais c'est une écoute. Enfin, en tout cas, il y a cette dimension d'écoute, mais d'une écoute choisie. Hein, il y a vraiment cette dimension d'invitation. Hein, on voit le désert, Jésus n'a pas été forcé au désert. De la même façon, les Hébreux, dans un sens non plus, n'ont pas été forcés au désert. Et on a cette dimension de choix, d'écoute. Et alors moi, je trouve ça vraiment extraordinaire dans cette histoire-là, biblique, où on voit effectivement le prophète Élie. Et il y a d'abord cette histoire de, alors je ne sais plus dans quel ordre, tremblement de terre, etc. Donc là, on est encore dans le brouhaha, on est encore dans ce qui se remarque. hein, quelque part dans ce qui est dominant, hein, faut être dominant pour effectivement pour marquer sa trace, etc. Et effectivement, alors il y a un tremblement de terre, il y a enfin, des tempêtes, etc. Je ne sais plus dans quel ordre. Et puis il y a un fin murmure, et certaines traductions le traduisent un fin silence. Et
Oui,
hein?
bien sûr.
Excuse-moi,
Excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais
non, non, excuse-moi.
là encore, faire le parallèle entre Moïse et Élie, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans les deux cas, donc il y a Moïse avec le peuple hébreu 40 ans dans le désert, qui va faire cette rencontre de Dieu, avec une rencontre un peu fracassante, hein, puisque Moïse, quand Dieu donne les deux tables de la loi avec les 10 commandements, etc., la montagne est en feu, en fumée, etc. Il faut imaginer une sorte de volcan. Enfin, c'est assez fracassant. Le peuple a peur, il entend du bruit. Voilà, donc en plein milieu du désert comme ça, et Dieu va se révéler de cette façon-là à Moïse dans le désert. Et puis Élie, lui, va retourner sur l'Horeb, hein, qui est dans la tradition la même montagne, celle-là même où Moïse avait fait la première rencontre avec Dieu, sur le fameux buisson ardent, etc. Et donc il est sur ce lieu saint, et effectivement les premières manifestations sont des manifestations de bruit, de violence, etc. Donc comme finalement, et là clairement, l'auteur veut évidemment faire le parallèle avec Moïse et les Hébreux en Égypte, qui sortent d'Égypte et qui sont dans le désert. Mais sauf qu'effectivement, le texte biblique dit bien, ben, Dieu n'était pas. Voilà, dans toutes ces manifestations bruyantes, Dieu n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là. Et puis après tout ça, vient effectivement quelque chose de très ténu, très léger, à peine perceptible, et on dit, voilà, Dieu était là. Et donc, effectivement, là encore, l'expérience d'Élie montre une progression d'un point de vue théologique, donc c'est-à-dire le rapport à Dieu. Alors évidemment, Dieu représenté comme un qui est, disons, de l'orage, des tremblements de terre, c'est pas surprenant parce que les représentations classiques de Dieu, ou on va dire des principaux dieux, quand on a un panthéon, des civilisations de l'Antiquité qui avaient un panthéon, en général, un des dieux principaux, c'est souvent un dieu guerrier. Ça peut être le dieu Baal, du côté des Phéniciens, etc. Enfin bref, donc voilà, c'est le dieu de l'orage. Il est représenté comme ça à Ougarit aussi, en Syrie, donc sur la côte syrienne. Donc on a comme ça, dans la documentation à la fois historiographique, littéraire, mais également même l'iconographie, des stèles qui sont exposées dans des musées comme le Louvre, tout ça, on voit le dieu, c'est le dieu de l'orage. Voilà. Donc il va tenir la foudre à la main. On a ce type de représentation. Donc on n'est pas très surpris de cette vision qu'on a de Dieu sur le mont Sinaï avec Moïse. En revanche, le récit d'Élie prend le contre-pied. Ça, c'est très très intéressant en histoire des religions, de dire, ben voilà, en fait, Yahvé, donc le Dieu de la Bible, n'est pas que le Dieu de l'orage, c'est pas que le Dieu qui fait peur, qui fait trembler le sol, etc. Alors le Dieu de l'orage, on le vénère aussi parce que c'est lui qui fait pleuvoir, on a besoin aussi évidemment de fertilité pour les terres. Donc on a toujours un peu un rapport ambigu avec le Dieu de l'orage, mais là, on découvre un Dieu qui se révèle aussi dans le silence. Et ça, je trouve que c'est un élément, c'est une sorte de tournant, un pivot. En histoire des religions, dans l'histoire disons, du yahvisme, hein, donc de la religion du dieu Yahvé. Donc cet épisode avec le prophète Élie est très intéressant. Et d'ailleurs, le prophète Élie va devenir un modèle pour les premiers moines, hein, les premières expériences de on appelle du monachisme érémétique, c'est-à-dire ceux qui sont dans le désert, les anachorètes, etc., vont revivre cette expérience parce qu'Élie va être une sorte de prophète par excellence. À la fin de sa vie, il monte au ciel sans connaître la mort sur un char de feu, tout ça. Donc, et dans le judaïsme, on attend la venue du prophète Élie qui va revenir. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un médiateur des révélations divines tout particulier. Et donc, je trouve que le fait que ce personnage central, ce prophète Élie, qui est une sorte de prophète par excellence dans le judaïsme, eh bien, justement, la révélation qu'il a de Dieu, elle se fait au travers du silence. C'est très intéressant.
Alors, tu vois, là où moi, ça, forcément, ça fait écho pour moi, c'est que tout à l'heure, je parlais de relation au monde et je parlais de l'expérience du silence, tu vois, comme une modalité de cette relation au monde. Et là, Élie, tu vois, on sait qu'il est en dépression. Hein? Alors, je ne sais pas si le terme convient bien, je veux dire le terme psychiatrique, hein, scientifique, mais en tout cas, on sait qu'il est dans un découragement très grand. Hein, il a presque plus de courage, etc. Et
Oui,
c'est vrai.
il veut mourir de toute façon. Donc
C'est ça.
effectivement, il a tous les symptômes.
Voilà, c'est ça.
Voilà, il est en surmenage, il est fatigué, il en a marre,
C'est
tout
ça.
le monde l'abandonne, il veut mourir. Donc oui, effectivement,
Hein?
aujourd'hui, en tout cas dans le langage courant,
Oui, tout à fait.
je suis pas
Il
spécialiste, mais
rouspète.
on dirait qu'il est dépressif. Ça, c'est
Il boit
sûr.
du noir, hein,
Oui,
finalement.
c'est ça.
Hein.
C'est le
Il
burn-out.
vient de vivre quelque chose de très fort, etc. Et puis là, pouf, il est vraiment raplapla. Et ce qui, pour moi, c'était peut-être aussi le début, hein, le début de mon exploration par rapport à l'espérance du silence, c'est qu'effectivement, on voit, et pour moi, c'est très, très paradoxal, on a l'impression que quelqu'un, on a l'impression, je dis bien, que quelqu'un, alors évidemment, les médecins ne diraient pas ça, mais que quelqu'un en dépression, allez, secoue-toi, allez, enfin, qui, voilà, un petit peu gin tonic, là. Et là, effectivement, c'est dans quelque chose pour moi, s'apparente à de l'intériorité. Enfin, en tout cas, qui tourne autour de ça, ça veut dire vraiment ce silence-là. Il vient s'écouter, il vient parler dans quelque chose qui s'apparente à une forme d'intériorité. Et j'aime beaucoup la définition de François Julin, c'est pas de lui, mais du philosophe François Julin qui disait l'intimité, c'est l'intime, c'est le plus profond du fond. Hein? Et ça, j'aime beaucoup. C'est comme si, voilà, on avait un fond et il y a le plus profond du fond. Et que c'est peut-être là où, quand je disais vraiment que le silence est peut-être une forme totale de communication, c'est que c'est là où s'est déployé quelque chose comme de l'ordre de la résilience, quoi, hein, de la résurgence. Voilà, on se remet sur les rails, on se remet dans un espoir, on reprend le chemin, on se remet en chemin. Par cet accompagnement, enfin, dans cet accompagnement avec le silence. Et c'est vrai que, notamment, quand on voit la musique, alors là, je pense à la musique classique, mais toutes les musiques ont leur silence, sauf que toutes les musiques n'utilisent pas l'écriture scientifique, pour marquer ça. Mais on voit qu'à un moment donné, quand on veut mettre une note en suspension, quand on veut la faire résonner, quand on veut vraiment qu'elle puisse. Comment dire, créer un espèce de chamboulement émotionnel, eh ben voilà, le compositeur, il sait en général ça manier le silence vraiment avec finesse. Et j'avais fait une conférence où j'avais montré aux gens, il était une fois dans l'Ouest, là, quand ils sont comme ça, hein, en face, l'un en face de l'autre, hein, et il y a l'enfant, la maman, et la maman enlève le repas de l'enfant. Et tout ça se fait dans le silence, où il y a un cadrage pour les yeux, etc. Et c'est vrai que quand j'avais interrogé les gens en présence, là, dans cette bibliothèque, les gens, effectivement, arrivaient à donner beaucoup de sens à ce silence. Et tout d'un coup, s'apercevoir que oui, le silence au quotidien dit beaucoup, beaucoup de choses, et notamment est un curseur un petit peu aussi. Notre relation au silence peut être un curseur aussi de notre relation au monde, comme Pascal qui disait le monde se porterait mieux. Alors, je ne le dis pas de manière du par cœur, mais dans le sens, c'est l'homme se porterait mieux, l'homme avec un grand H, si il pouvait rester dans sa chambre en silence et s'en porter bien. Et c'est un peu ce qu'a vécu Élie. Enfin, c'est pas vraiment sa chambre, c'est pas vraiment le lieu de l'intime, mais c'est quand même dans son cœur que tout ça s'est produit. Donc, ça fait penser un peu à tout ça.
Oui, c'est intéressant parce que ce que tu dis là me fait penser à ce dont nous parle Philon d'Alexandrie. C'est un auteur qui écrit au tournant de notre ère, au tout début du premier siècle de notre ère. Elle fait partie de la communauté juive d'Alexandrie en Égypte, et donc Philon a écrit tout un tas de livres, mais il a un ouvrage, De Vita Contemplativa, qui nous parle donc de la vie contemplative, c'est-à-dire il nous raconte une communauté juive, donc on est avant la naissance du christianisme, au moment de la naissance du christianisme, on va dire, notamment de communautés qu'on pourrait qualifier de monastiques finalement, c'est-à-dire des gens qui vivent à part, qui vivent ensemble. Et donc, alors on connaît ce groupe des Esséniens, lui il parle aussi des thérapeutes, c'est intéressant parce qu'il parle de deux communautés. Et on sait que les Esséniens, notamment quand on pense au site de Qumran, où il y a cette communauté qui vivait là sur place, et dont on nous parle aussi dans des rouleaux découverts sur place, on nous parle aussi d'une vie communautaire. On n'est pas tout seul dans le désert, mais on est quand même dans le désert, hein. Qumran, c'est quand même une région désertique. Et l'Égypte aussi, c'est beaucoup du désert, évidemment. Et même si on ne vit pas tout seul, il y a une bonne partie du temps qui se fait en silence. On nous explique, par exemple, dans un rouleau qui nous parle de cette communauté qui aurait essénienne, qui aurait vécu à Qumran ou ailleurs, que les repas se prennent en silence, etc. Donc, il y a une valorisation du silence. Et ce qui est intéressant, c'est que Philon d'Alexandrie nous parle aussi d'une communauté qu'il appelle les thérapeutes, et qui sont donc des guérisseurs, d'une certaine manière. C'est intéressant de mettre en parallèle, tu disais, ce silence qui peut être, comment dire, un lieu de guérison, finalement, un mode de guérison, en tout cas de se porter de bien-portance, comme tu disais, voilà. Et donc là, on voit des gens qui vont effectivement vivre à l'écart, qui vont passer du temps dans la contemplation, dans le silence, la solitude, et en même temps, qui vont associer ce mode de vie à la guérison. Alors, pas forcément la leur, mais peut-être celle des autres aussi, mais en tout cas à la guérison. Donc, je pense que c'est peut-être une piste à creuser de voir effectivement ce lien entre silence et guérison avec cette fameuse communauté des thérapeutes. Et d'ailleurs, le mot essénien lui-même, on ne sait pas quel est le sens, l'étymologie de ce. Il y a des débats, parce que bon, voilà, le N à la fin ou pas, enfin bref, bon, voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails philologiques, mais. Une des hypothèses d'interprétation du terme essénien, c'est que ça voudrait dire, en fait, que ce serait de l'araméen et que ce serait l'équivalent du grec thérapeute. Donc, en fait, les esséniens et les thérapeutes, finalement, ce serait à peu près la même chose. Et donc, avec cette idée à chaque fois de guérir. Donc, en tout cas, je trouve que ça mérite d'être creusé comme piste.
Ah, c'est. Bah, écoute, alors tu vois, ça me rappelle. J'ai été. Donc, c'est un concept, me semble-t-il, qui vient du Canada, tu sais. C'est des cuves. Alors, comment on appelle ça? Des cuves. Bon, dans des cuves, si tu veux, ils mettent énormément de sel et de l'eau. Et donc, tu es là, dans ces cuves, avec le sel, tu sais, qui crée une forme d'apesanteur, un peu comme si tu serais sous la lune, quoi, ton corps. Se décharge de son attraction un petit peu, en tout cas, un peu beaucoup. Et déjà, c'est déjà première entrée dans quelque chose de mystérieux. Comment est-ce qu'on se perçoit sans ce poids-là, hein, ce poids qu'on a, et dans lequel vraiment on n'en a vraiment pas conscience. Enfin, je veux dire, c'est tellement intériorisé, ça fait tellement partie de notre vie. Hein, notre corps, c'est tellement, il s'adapte tellement bien à ça, il nous envoie les messages par rapport à ça, et tout d'un coup, paf, on lui enlève ça. Et donc, ils mettent une petite musique, et tout d'un coup, la musique s'arrête, et on se retrouve dans le noir, couvert, avec peut-être le bruit de l'eau quand on va faire des mouvements, et le corps porté. C'est incroyable. Bon, moi, personnellement, je serais resté. Une journée entière, vraiment, j'étais vraiment comme quand je vais me balader ici dans mon lieu de montagne, parce que j'habite à la montagne, et je fais donc des balades quotidiennes, 1 heure minimum chaque jour dans la montagne tout seul. Et là, je me sentais, voilà, mais peut-être avec quelque chose de beaucoup plus sensible, parce qu'effectivement, il y avait des signaux que j'ignorais, voilà, des signaux de mon corps, des signaux, etc. Et puis la pensée, peut-être. Est plus libre, hein, enfin plus, elle va plus peut-être vagabonder. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que face à cette chose-là, ça peut être une épreuve, hein, pour certaines personnes, et notamment les secrétaires de ce lieu, qui est un peu un lieu avec une vision thérapeutique en tout cas clairement affichée. Elle me disait que les premières fois où elles avaient fait ça, parce que d'autant plus il fallait l'essayer pour l'expliquer, enfin pour bien comprendre le client, ce qu'il vivait, etc., elles étaient dans un effondrement, en tout cas, peut-être pas le mot était fort, mais en tout cas dans une peur, parce qu'en fait, tout d'un coup, leurs pensées, qu'elles vont chasser en mettant la musique dans la voiture, qu'elles vont chasser dans le brouhaha, peut-être des fois de certaines vies, enfin, dans certains lieux urbains, etc. Et ben tout à coup, ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'on enlève ce voile, voilà, on enlève ce voile, Et tout d'un coup, pouf, on découvre ces pensées qui sont là, qui s'agitent un peu, enfin qui s'agitent en tout cas, qui sont là en tout cas, hein, et dans lesquelles on prend conscience un peu, en tout cas qu'on prend connaissance. Et effectivement, je me suis dit effectivement que peut-être que parce que des fois, on peut voir effectivement la vie monastique. Alors évidemment, toutes les vies monastiques n'ont pas les mêmes protocoles, etc. Bien sûr, les chartreux, par exemple, les moines chartreux n'ont pas du tout le même protocole du point de vue du silence que les carmélites, que les dominicains, etc. Mais effectivement, je me suis dit effectivement cette espèce de ce qui est très intéressant, c'est que ce rapport au silence là, hein, qui quelque part pour le meilleur ou pour le pire, il a quelque chose d'incertain. Un peu comme Armand Trosa parle de la neige, il dit voilà la neige, on peut la prévoir, elle ne vient pas. On peut la prendre, la mettre dans le congélateur, mais elle ne garde pas sa forme. Elle a quelque chose d'indisponible. Et c'est quelque chose qui m'a aussi fasciné dans mes recherches, c'est cet aspect-là, dans cette modalité de relation, d'indisponibilité. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que de ce fait-là, je peux comprendre aussi que la vie monastique, c'est une grosse découverte, une découverte en soi, enfin, sur soi sûrement, mais aussi, voilà, c'est aussi des ambivalences, c'est-à-dire enfin, peut-être des fois, voilà, c'est peut-être des moments radicaux où peut-être la personne se retrouve vers soi ou sur soi. Voilà, comme ça, un petit peu comme observateur de ses pensées, de soi. Et j'avais notamment un aumônier qui me disait que quand il voulait méditer, alors je ne sais plus exactement le terme exact de cet endroit, mais c'est un endroit, alors je ne sais plus, c'est un hôtel sur lequel ils vont rester en méditation silencieuse. Et il disait que parfois, il suffit qu'il s'avance à faire ça. Et tout d'un coup, il va avoir des mal de dos terribles, il va avoir des pensées d'inconfort, mais pas simplement physique, mais d'inconfort aussi un peu psychologique aussi, et qui va vouloir vraiment rompre avec cette. Peut-être un peu comme le jeûne, peut-être, ou à un moment donné, peut-être celui qui jeûne, qui se met en silence, il vient à un moment donné à un moment de rupture, où cette mise en silence du corps peut être aussi, par moments, peut-être perturbant.
Oui, cette ambivalence que tu relevais tout à l'heure, c'est le bon terme, hein. C'est sûr que le silence va provoquer des réactions parfois un peu paradoxales. Et d'ailleurs, on le voit, les passages de la Bible qui parlent du silence, comment dire, le présente parfois comme quelque chose d'agréable et quelque chose au contraire, de très désagréable. Il y a un passage par un prophète peut justement peut demander le silence de façon presque un peu violente par respect ou par soumission. Le prophète Habacuc va dire le Seigneur est dans son temple saint, silence devant lui, terre entière. Voilà, donc là on se met en silence parce qu'on a peur, vous voyez. Et là si tu veux, donc alors que d'autres passages au contraire vont avoir plus ce silence comme une écoute dont on parlait tout à l'heure. Moïse va dire dans le Deutéronome, fais silence, Israël, écoute. Voilà, donc on fait silence parce qu'on va écouter. Et donc, au contraire, parfois de façon tout à fait agréable, le silence qui représente un flottement léger, voilà, tout est calme et on est tranquille, cette tranquillité. Et là, on va le trouver dans les psaumes. Par exemple, le psaume 62 va dire mon âme est tranquille devant Dieu, mon salut vient de lui, etc. Donc, on a cette idée voilà, je suis rassuré et donc j'ai confiance en Dieu. Dans les Lamentations de Jérémie aussi, on nous dit il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Donc tu vois, il y a toujours cette idée-là. Là, pour le coup, donc finalement, ce silence peut évoquer plusieurs choses, soit de l'inconfort, soit au contraire de la confiance et de la tranquillité. On va retrouver tout ça finalement dans différents passages de la Bible.
Oui, alors tu vois, c'est vrai que j'avais effectivement cette image en tête quand tu disais, effectivement, tu donnais des exemples d'ambivalence d'Esther et son oncle notamment, qui fait silence par rapport à l'honneur. On attend de lui qu'il ait une tâche honorifique, hein, vis-à-vis d'un des conseillers du roi. Et par rapport à cet attendu, là c'est le sociologue qui parle, d'attendu social, eh ben, effectivement, il fait silence. Et on voit effectivement que pour le conseiller du roi, c'est le bras droit, c'est insupportable. Ce silence, c'est comme une forme de défiance.
Oui, tout à fait. Oui, ça peut surprendre et ça peut, oui, effectivement, ça peut décontenancer, ça peut déstabiliser. Et puis, voilà, il y a effectivement des moments où il vaut mieux faire silence. D'ailleurs, la Bible le recommande. Il y a des moments où, voilà, l'Ecclésiaste, donc le Kohelet, dit il y a un temps pour tout. Et donc, il dit il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Donc effectivement, ces deux options sont envisageables, mais pas forcément au même moment. Donc, c'est ça la question, c'est à chaque moment, chaque occasion, savoir quelle va être la bonne posture. Est-ce que c'est le moment de parler? Il ne s'agit pas de se taire en permanence, mais il y a peut-être aussi des moments où effectivement, c'est un temps pour se taire, comme dit l'Ecclésiaste.
Et alors, est-ce que justement, dans ces codifications du silence, voilà, c'est vraiment une question qui me fascine, et donc là, j'ai pas vraiment le. Est-ce que dans ces codifications de silence, notamment dans les différents lieux de culte à Jérusalem, est-ce que la codification de silence est différente, par exemple en France? Tu vois, par exemple, je parle de ça parce que je sais qu'il y a une forme d'opposition entre le milieu évangélique et le milieu catholique, mais sur la base du silence. Tu sais, les évangéliques, c'est ceux qui vont utiliser les batteries, les guitares électriques. Attention, évidemment, je ne veux surtout pas stigmatiser ni l'un ni l'autre. Évidemment, je parle de traits comme ça. Évidemment que dans ces milieux-là, il n'y a pas une pensée unique, mais il y a comme ça cette idée-là que dans le milieu catholique français, voilà, il y a effectivement cette espèce d'austérité. Pieuse, positive, on va dire, dans le silence, où cette codification de silence va permettre effectivement peut-être une entrée hein, pour le chrétien dans la présence de Dieu, peut-être plus prégnante, peut-être en tout cas dans l'imaginaire, hein, parce que là, évidemment, je parle bien évidemment d'imaginaire et de perception des choses. Et que, effectivement, chez les évangéliques, le fait d'utiliser la batterie, etc., des styles, par exemple, rock, etc., ou du rap, qu'on va peut-être toucher à cette espèce de sacralité, comme ça, du silence, hein, et de ces codifications du culte. Et justement, qu'est-ce que toi voilà, qui voyages, effectivement, notamment, bah, justement, à Jérusalem, mais pas que, tu l'as dit, en Jordanie, enfin, tu étais en Italie il n'y a pas très longtemps, etc. Comment est-ce que tu vois comme ça des nuances comme ça par rapport à ces représentations de qu'est-ce qui doit faire, qu'est-ce qui doit, comment on doit faire silence, comment on doit codifier le silence tu vois?
Alors, effectivement, tu as raison, on va trouver différentes sensibilités au sein du christianisme, tout comme dans d'autres religions. Dans la plupart des
Bien
religions, on va
sûr,
avoir
tout à fait.
différentes sensibilités, différentes mouvances. Alors, c'est vrai qu'effectivement, vu de loin comme ça, on a davantage l'impression d'une église catholique un petit peu vide, silencieuse, un peu d'orgue, mais c'est tout, alors qu'effectivement, peut-être rentrer dans une église évangélique très joyeuse, beaucoup de musique, très forte, etc. Bon, c'est une tendance, on pourrait dire. C'est vrai que ça, mais il faut pas non plus généraliser. C'est-à-dire
Oui, bien sûr.
on peut observer l'inverse. C'est-à-dire que il y a des rassemblements catholiques très vivants. Tu parlais de batterie, de musique, les JMJ, c'est toujours très joyeux. Il y a des mouvements charismatiques chez les catholiques où on va avoir aussi voilà, des messes très dynamiques avec guitare, batterie, tout ce qu'il faut. Les gens font beaucoup de bruit, applaudissent, chantent. Voilà. Donc on peut aussi faire beaucoup de bruit chez les catholiques. Et aussi chez les évangéliques, on peut avoir des moments beaucoup plus calmes, y compris de silence, de recueillement. Alors, il y a peut-être moins de traditions, il n'y a pas beaucoup de traditions disons, de monachisme ou de consécration chez les protestants de manière générale. Hein. Ça existe, il y a les diaconesses de Reuilly, tout ça. Donc, il y a quand même, disons, des règles monastiques qui existent chez les
Oui.
protestants, mais c'est vrai que c'est très rare. Et chez les évangéliques, c'est quasi inexistant, effectivement. Donc, il n'y a pas cette tradition-là. Et effectivement, ça peut manquer. Ça a été relevé d'ailleurs. Il y a effectivement comment dire, une autocritique de certains milieux évangéliques, y compris les milieux les plus exubérants où on fait une louange très vivante, très joyeuse, etc. Et où à un moment donné, un pasteur ou même quelqu'un qui va justement conduire ces temps de prière et de louange va dire, bon, peut-être que chez nous, on a peut-être moins de tradition de silence, mais là, il serait peut-être bon qu'on prenne un temps de silence. Donc ça, moi, je l'ai vu, hein, ça existe des deux côtés. Mais effectivement, comme il y a une tradition, il y a moins de tradition de monachisme chez les protestants et chez les évangéliques, ça explique effectivement, peut-être ça se voit moins souvent. Alors c'est bien, c'est l'occasion justement d'apprendre les uns des autres et de se dire que c'est toujours... au lieu d'être dans l'opposition ou dans une querelle de clochers, au contraire, peut-être de voir ce que chacune de ces traditions a à nous apporter en disant, voilà, peut-être moi, ce qui me manque, c'est peut-être ce que eux, ils ont, et d'aller chercher et d'être enrichi par l'expérience des autres.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, pour revenir à cette articulation du silence et de la relation au monde, effectivement, j'ai pas eu mal de gens qui m'ont témoigné, tu sais, de cette recherche, tu sais, de se faire accueillir dans des monastères, tu vois, où, par exemple, à table, bah, la règle était qu'on ne parle pas, tu vois, avec une petite cellule, mais vraiment un peu comme un moine, quoi, vraiment rudimentaire, rudimentaire. Et alors, j'ai vraiment un témoignage qui m'a vraiment surpris depuis Strasbourg. Hein. Quelqu'un qui me disait, donc il était là vraiment avec vraiment des tourments, des choses qui voulaient calmer en lui. Et il me dit, la première chose qu'il a effrayée, c'est la manière dont il avait l'impression que les moines flottaient. C'est-à-dire qu'il avait vraiment l'impression que les moines ne touchaient pas le sol avec leurs pieds parce que, il n'y avait aucune. Parce que son oreille, sûrement, ne pouvait pas déceler un bruit. Hein? Et c'est rigolo parce que ma directrice de thèse, donc, qui s'est fait carmine parmi les carmélites, elle explique qu'elle essaye d'amoindrir ces bruits de la porte qui ferme des toilettes, du couvert quand on mange, et elle se rend compte qu'elle fait un vacarme.
Oui.
Elle fait un vacarme, mais elle en conclut que finalement, il y a une forme de même de technique, tu vois, du corps. Donc, Marcel Mauss a parlé de ça, pour vraiment arriver à cet état-là d'encaisser comme ça la sonorité. Et alors, la première journée où il a passé au monastère, il avait cette impression de comme ça que les moines flottaient, puis il entendait les bruits, un petit peu comme s'il entendait le bruit des usines, les bruits de la circulation, etc., qui étaient comme en arrière-fond, qui étaient assez forts. Et au bout de quelques jours où il est resté là-bas, c'est comme si ces bruits avaient disparu. C'est incroyable. C'est comme quelque chose qui est resté un petit peu comme un acouphène. Hein, et puis tout d'un coup, paf, ça y est, comme s'il était prêt à encaisser. Surtout que d'un point de vue comment dire de l'acoustique, certains lieux, certains monastères sont c'est quand même impressionnant quoi de voir comment est-ce que la voix on a l'impression qu'elle grimpe sur voilà sur les architectures quoi qu'elle va résonner un peu quoi.
Ah, c'est très très intéressant. Bah, ça me donne encore plus envie de lire tes travaux. J'espère que ça. Ouais, bah oui, je te souhaite tout le succès dans tes recherches.
Écoute, ben merci beaucoup, hein. C'est en tout cas avec plaisir. Donc on arrive à la terme, hein, de notre émission. Qu'est-ce que tu aimerais partager, voilà, avec nos auditeurs, par rapport à, je sais pas, par rapport à ce qui, la quintessence de ce qu'on a pu discuter et ta touche personnelle. Qu'est-ce que tu aimerais partager?
Ah, ben, on a dit plein de choses intéressantes. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le contact avec le divin, avec Dieu, doit passer par un certain nombre d'étapes. et en particulier par une prise de conscience de notre faiblesse en tant qu'être humain, nos limites humaines, et que justement ce passage par le silence, par le désert, alors peut-être pas le désert physique, quoique si on a l'occasion, c'est très bien si on peut le faire,
Oui,
mais
bien
sinon
sûr.
même de créer les conditions, c'est une bonne chose. Et effectivement, peut-être dans le bruit de nos vies quotidiennes, de se souvenir oui, de ce verset de l'Ecclésiaste que je disais tout à l'heure, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, et d'apprendre aussi. Et apprendre le temps de faire silence. Et je retiens aussi ce que tu disais sur le lien entre silence et guérison. Je trouve que c'est très, très intéressant de développer cette idée. Alors, et puis l'idée de flotter aussi, c'est marrant, tout à l'heure, je n'ai pas relevé, mais c'est vrai que la mer Morte, figure-toi, est une mer
Ah.
hypersaline où il y a un tiers de sel. Donc on flotte. Donc le site de Qumran et d'autres sites archéologiques là qui sont tout au bord de la mer Morte qui est en plein désert. Eh bien justement, quand on est dans la mer Morte, c'est une mer qui est donc comme elle est hyper saline, un tiers de sel. La poussée d'Archimède fait qu'on a l'impression de flotter. Donc peut-être raison de plus pour aller faire l'expérience du désert et de la mer Morte là-bas en Terre Sainte.
Waouh! Bah c'est oui, effectivement, c'est en tout cas c'est une perspective intérieure, en tout cas, qui peut-être va naître en moi l'envie de effectivement de vivre cette expérience de flottaison. On peut se baigner dans la mer Noire? Enfin, c'est peut-être un peu naïf comme question.
Oui, bien sûr. Moi, il y a 2 jours encore, je me baignais dans la mer Morte. Donc oui, je
Ah
confirme que
ouais,
ça se fait.
ok, bon bah voilà, donc c'est des perspectives à venir et effectivement cette piste de. Cette espèce de chemin là, ce nouveau chemin de questionner le rapport entre la santé et le silence, effectivement, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Merci.
Donc, on te remercie vraiment pour ton accueil, pour tout ce que tu as pu apporter à cette émission. Voilà, au nom du laboratoire Élie Thésard, ben voilà, je te remercie vraiment.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.